Gloire à Dieu pour ce merveilleux chant. J'aime bien les chants en trois temps en général. C'est bizarre, ça nous entraîne dans la louange au Seigneur. Et le sujet là introduit bien notre réflexion de ce matin, le sacrifice de Christ. L'autre jour, mon épouse était à la librairie biblique du Bon Livre et cherchait un livre sur la sanctification, et la dame a dit: « Ah, madame, vous cherchez un livre ?»« Oui, je voudrais un livre sur la sanctification. » « Ah, il n'y a jamais quelqu'un qui demande des livres sur ce sujet. » Elle a été très étonnée de cette réflexion. D'habitude, les gens demandent des livres sur la guérison, sur les dons spirituels, sur le Saint-Esprit. Ça, les gens sont très intéressés. Mais la sanctification, ah, j'en ai toute une collection. Vous avez le choix. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous parler sur ce sujet, même s'il se vend moins, même s'il est peut-être moins populaire, moins intéressé par la foule. Et nous allons donc essayer d'aborder ce sujet qui pourtant est essentiel, puisque la Bible dit: sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi, dit le Lévitique déjà. Donc, c'est un sujet important. Un Thessalonicien dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne nous appelle pas à l'impureté, mais à la sanctification. Alors voilà, nous allons voir quelques passages dans la Bible qui sont essentiels là-dessus. Ce dernier texte nous dit qu'il y a des exemples concrets de sanctification. Il faut s'abstenir de la débauche, être honnête, ne pas avoir de convoitise passionnée, de fraude, de cupidité dans les affaires, se garder de l'impureté, etc. Donc, le sujet est vraiment important pour le chrétien qui, s'il veut influencer le monde. Alors, les mots sanctifié, saint, sainteté se trouvent dans toute la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament. Par centaines, il y a ce mot. Mais le mot sanctification se trouve que 7 fois dans la traduction de Louis II. Et Weingruden, qui est un théologien connu, en donne la belle définition que voici. La sanctification, c'est le processus qui nous amène à la sainteté. Vous allez me dire, Lapalus aurait pu en dire autant. Tellement la définition est simple, mais c'est un processus qui nous amène à la sainteté, ce qui est quand même bien dit. Être saint en hébreu, c'est kadash, et veut dire être consacré, être donné au Seigneur. En grec, c'est le mot agios, du verbe agiazo, qui veut dire être séparé, être mis de côté, mis à part pour le Seigneur. Donc nous sommes des êtres spéciaux qui sortent du lot et qui sont mis à part pour le Seigneur. Voilà la notion de sainteté. Le mot sanctifié en français vient du latin. Le latin sanctus qui veut dire saint et facio. Facio qui veut dire je fais, je travaille. Je me consacre à. Donc, montre d'emblée la difficulté pour le chrétien d'être saint. C'est un travail. Il faut s'y attacher, il faut s'y donner. Et le latin, donc, souligne l'effort humain. J'exerce. C'est toute une difficulté à vivre la sainteté. Et pourrait aussi nous pousser dans les bonnes œuvres pour le salut, ce qui n'est pas le plan de Dieu. La sainteté est une conséquence du salut, pas une nécessité au salut. Alors, chaque chrétien souffre quand il réalise qu'il ne parvient pas par ses propres efforts, par sa propre volonté, d'avoir une vie de victoire totale sur le péché. Paul lui-même le décrit. En Romains, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. C'est une difficulté que nous avons tous. Et la tradition catholique sur la nomination des saints par l'Église, qui désigne les saints et qui en fait un répertoire, n'est pas du tout biblique, parce que chaque chrétien est appelé à être saint. Nous l'avons lu déjà dans l'introduction de l'Épître aux Romains. Et dans Corinthiens, Paul dit la même chose. Il dit à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés à être saints, c'est-à-dire tous les gens de l'Église de Corinthe. C'est quand même extraordinaire, sans exception. C'est le plan de Dieu. Dieu connaît les siens et ce n'est pas à nous de désigner les saints. Alors, il y a quatre dimensions. Quatre dimensions pour vivre la sainteté dans sa plénitude. Et le premier domaine qui concerne notre sanctification, c'est le monde qui est autour de nous et qui nous influence. Et c'est une grande dimension dont Jésus parle dans sa fameuse prière sacerdotale. Vous vous rappelez de cette magnifique prière que Jésus a prononcée dans Jean au chapitre 17. Et Jésus parlera à plusieurs reprises du monde. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Et comme moi je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les, rends-les saints. Par ta vérité, ta parole, c'est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous entendez le mot qui revient ici tout le temps ? Le monde, le monde, le monde. C'est un monde qui nous entoure et qui nous influence. Et la sanctification est la victoire sur ce monde qui nous influence. Le mot grec pour monde est un mot que nous connaissons bien. C'est le mot cosmos. C'est étonnant. Cosmos. Alors, on peut dire que le mot appartient vraiment à l'apôtre Jean, à son vocabulaire habituel. Parce que ce mot se retrouve dans tous ses écrits. Il emploie 79 fois dans son évangile. Et rien que dans cette prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17, le mot est employé 19 fois. Alors dans les trois épîtres de Jean et l'Apocalypse de Jean, on le trouve encore 28 fois, le monde. Je crois que l'apôtre Jean devait souvent parler du monde dans ses prédications ou dans son témoignage. Ce mot lui appartient à son vocabulaire habituel. Alors, la littérature grecque ancienne emploie évidemment le mot cosmos comme étant un mot habituel et il signifie le monde organisé, le monde ordonné, le monde civilisé, qui est organisé et qui nous entoure avec ses structures, avec les arts, l'urbanisme, avec les nations armées, et il est toujours loué dans la littérature grecque ancienne, il est toujours loué pour sa beauté. Et là, nous sommes étonnés parce que dans la Bible, le monde n'est jamais loué. Et dans le Nouveau Testament, la notion du monde est péjorative. C'est un monde organisé, bien sûr, mais organisé par Satan. Il est dirigé par Satan. C'est un monde rempli de perversions et d'injustices qui éloignent le chrétien de Dieu. C'est un monde d'iniquité où le mal règne. C'est un monde caractérisé par la domination, la tricherie, l'amusement, le libertinage, l'égoïsme, en un mot, le péché. Pourquoi Jean dira dans 1 Jean, n'aimez pas le monde. Et c'est dans ce monde injuste qui est opposé à Dieu, à ce monde qui est moqueur et qui persécute les chrétiens, que Jésus nous laisse volontairement, selon sa volonté. Il nous envoie même. Je vous envoie dans ce monde. Et il nous demande d'y vivre une vie sainte, séparée. Et là, on voit toute la difficulté pour le chrétien. Et on se demande, est-ce que c'est possible? Et Jésus ne demande pas aux chrétiens cette solution facile que certains ont imaginée et imaginent encore, c'est-à-dire de se séparer totalement du monde en s'isolant dans des monastères, par exemple. Non, Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus ne veut pas que le chrétien se barricade. Le chrétien n'a pas besoin de s'enfermer pour se protéger. Il peut se séparer du monde en étant dans le monde. Alors, quand on observe la nature, on voit que certains animaux sont vraiment barricadés du monde. Ils ont un squelette externe. Ça les protège, évidemment. Ça les protège magnifiquement. Mais c'est un handicap. Parce qu'ils ne savent pas grandir. Vous connaissez les scarabées, les insectes, même les crabes. Ils ont un squelette externe. Nous, on a un squelette interne. Et ce système-là nous rend vulnérables, on se blesse. Mais on peut grandir. C'est ça l'intérêt. La croissance est possible. Alors, certains animaux n'ont pas de squelette du tout. Même pas interne, même pas externe. Et comme par exemple, certains mollusques, et par exemple un animal qui vit dans la mer, le poulpe. Et on se demande, mais comment peut-il vivre dans la mer avec la pression de l'eau, sans aucune protection, sans aucun squelette? Eh bien, il a une capacité d'augmenter en lui la pression. S'il est dans les grandes profondeurs, il augmente sa pression et son corps s'adapte à la grande profondeur. S'il est à une petite profondeur, la pression interne s'adapte et il peut supporter moins de pression. Et ça nous fait penser à la puissance de l'esprit qui, chez les chrétiens, l'aide vraiment à résister à la pression du monde extérieur. Alors Jésus demande dans cette prière notre sanctification. Il se met lui-même en exemple de sanctification pour que ses adeptes soient sanctifiés. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et il emploie 3 fois le mot sanctifié, c'est-à-dire agios, mis à part, consacré, réservé pour Dieu, spécialement mis de côté pour le Seigneur. Et il dira, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés, mis à part pour Dieu. Hébreux aussi nous parle beaucoup de la sanctification. Il est dit que la sanctification est possible par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, nous dit Hébreux 10. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La difficulté n'est donc pas un problème pour le Seigneur. Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a tout vaincu pour nous, à notre place, à la croix. Il a remporté la victoire sur le monde à notre place. Si nous avons sa vie en nous, le monde ne nous concerne plus, il ne nous influence plus. Mais c'est nous qui, par la puissance de l'Esprit qui est en nous, c'est nous qui allons influencer le monde. Nous sommes des lumières dans les ténèbres, nous sommes le sel sur la terre. Alors voilà pour ce monde qui est autour de nous et qui cherche à déstabiliser le chrétien. Mais il y a encore un autre monde, pas seulement celui qui est autour de nous. Il y a tout un monde qui est en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est Jacques qui dit que la langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est comme un feu. C'est un monde. Et Jacques emploie le mot cosmos. C'est un monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, par l'enfer. C'est un monde terrible qui est en nous et avec lequel nous avons à nous battre nous-mêmes, contre nous, contre nous-mêmes. C'est un monde mauvais, il est en nous et il se manifeste souvent par la langue et il se manifeste dans tout notre corps. Ce n'est pas un monde de péché qui nous entoure, c'est un monde de péché qui nous habite. Et là, on revient encore à l'épître aux Romains. Moi, j'ai écouté l'exposé de notre frère et je l'ai trouvé magnifique, ses explications sur l'origine de l'Église de Rome. C'est vraiment très intéressant. Et c'est une belle épître quand même, l'épître de Romains. Peut-être la plus belle que nous avons parce qu'elle est théologique. Elle montre la doctrine, et cela est très important. C'est l'épître qui a converti Martin Luther. Ne l'oublions pas en la lisant. Alors, dans Romains 7, au verset 20, Paul dit « Je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui le fait en moi, parce qu'il habite en moi. » Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, à l'intérieur de moi-même. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui. Un texte magnifique quand même. Extraordinaire. Ce monde du péché qui n'est pas seulement autour de nous, mais qui est en nous. Et c'est un monde de domination, un monde de jalousie, un monde de rancune, de vengeance. C'est un monde de péché qui est en nous. Et c'est à nous que Dieu demande d'être saint comme lui-même est saint. Comment est-ce possible? On peut facilement comprendre que pour quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur, qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui ne s'est pas donné à Dieu et pour qui Christ n'est pas le Maître et le Seigneur, un inconverti, comme nous disons, on peut comprendre que pour lui c'est impossible. C'est impossible. Mais pour un homme comme l'apôtre Paul, qui est né de nouveau, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, ce problème le fait souffrir, ben, il a la solution. Il se dit misérable, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, je suis victorieux. Et je crois que ça résume un peu toute notre vie chrétienne, ce combat contre nous-mêmes, contre la chair, contre ce vieil homme. Et qu'on réalise que en Christ, oui, nous sommes vainqueurs. Et je crois que toute notre vie chrétienne, ce sera un processus de victoire sur le péché qui habite en nous. Luther a dit « J'ai cru noyer le vieil homme dans les eaux du baptême, mais le bougre, il savait bien nager, il savait bien nager. » Alors, dans Romains 6, Paul montre la solution. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Ainsi, vous-même, regardez-vous, comme mort au péché, regardez-vous comme vivant pour Dieu et en Jésus-Christ. Louis Segond a eu du mal à traduire cette phrase. Regardez-vous mort au péché. Le mot regardez-vous. Parce que en grec, ce n'est pas imaginez-vous. Imaginez-vous que vous êtes mort. Ce n'est pas supposer que vous soyez mort. Quand il est dit « regardez-vous comme mort », ça veut dire « soyez sûr que vous êtes mort ». C'est une certitude. Ce n'est pas une illusion. C'est une assurance. Parce que le mot grec, c'est « logizeste ». Vous êtes réellement mort au péché. C'est un acquis de Christ sur la croix qui devient votre acquis. Dieu vous l'impute. Vous êtes imputé à être mort au péché, à être vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La sanctification est donc un acquis qui se réalise tout au long de notre vie chrétienne. Nous devenons ce que nous sommes. Il est intéressant de voir que ce verbe est employé 11 fois dans le chapitre 4 de Romains au sujet d'Abraham. Chaque fois qu'il est dit que Dieu l'a vu juste, losizomai, c'est le même verbe. Chaque fois qu'il est dit que sa foi lui a imputé à justice, c'est encore le même verbe. Quand il est dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Au chapitre 4, Paul continue, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Et devint ainsi le père d'une grande multitude de nations. Il ne douta pas par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Non, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il va l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. C'est encore à cause de nous que cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous pouvons nous regarder comme morts au péché, c'est-à-dire d'être vus juste, comme Abraham a été vu juste par Dieu. Et Dieu est justice et droiture. Il n'y a pas là d'illusion. Et nous avons plus facile qu'Abraham, parce que nous avons le sacrifice de Christ, que Abraham n'avait pas encore connu. Abraham n'a même pas connu la Bible, puisqu'il vivait à une époque où l'Écriture n'existait pas. Vous me direz, mais si Dieu me voit juste, c'est bien, mais moi, je me vois encore mauvais. Je me vois encore dans ma vieille nature, qui est toujours là. Oui, mais nous devons savoir que la victoire est acquise. Nous devons savoir que la vieille nature est clouée. Christ l'a accomplie. Et donc, nous devons croire en cette victoire totale, même si nous ne la voyons pas. Et que Dieu nous laisse vivre pour la voir comme un processus. Parce que nous avons tout à apprendre durant notre vie chrétienne. Alors, cela, nous devons l'accepter par la foi. Comment avez-vous cru au pardon ? Comment avez-vous cru au sacrifice de Christ ? Comment est-ce que le sacrifice de Christ a été efficace dans votre vie pour le pardon de vos péchés ? Comment ? Simplement par la foi. On l'a accepté par la foi. Et c'est la même chose pour la sanctification. Comment pouvez-vous croire en votre délivrance ? C'est simplement par la foi. Par la foi au sacrifice de Christ. Et Dieu l'imputera à justice. Luther a encore dit, il n'y a pas de justification sans sanctification. Les deux vont ensemble. Votre conversion et votre sanctification sont inclus dans le sacrifice de Christ. Les deux vont ensemble. Et si vous ne voyez pas la sanctification, vous la verrez un jour s'accomplir et progresser. Si vous progressez dans votre vie chrétienne, vous verrez que la sanctification est inclue dans le pacte de salut que Christ a gagné à notre place sur la croix. Alors vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Sachez que c'est ça que vous êtes. Dieu vous voit juste. Donc vous êtes juste, même si vous, par vos sens, vous voyez encore des défauts. Mais ne vous inquiétez pas, vous progressez, vous avancez avec le Seigneur, de victoire en victoire, grâce à ses mérites. Corrie ten Boom avait une petite broderie qu'elle montrait partout dans les églises. Et d'abord, elle montrait le revers de la broderie. Il n'y avait que des fils de toutes les couleurs. C'est comme ça que vous voyez votre vie. Vous voulez voir comment Dieu voit votre vie. Alors elle tournait sa petite broderie et on voyait une couronne. Voilà comment Dieu voit votre vie. Espérant contre toute espérance. C'est ça notre délivrance. Alors, dans la suite de l'épître aux Romains, Paul emploiera des mots très forts pour exprimer cette délivrance à laquelle il faut croire. Dans Romains 6, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Toujours Romains 6, vous êtes affranchis, c'est-à-dire libérés, libres, victorieux du péché. Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui vous voit juste. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour vous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni même les anges ou les dominations, les choses à venir, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors nous, si nous faisons appel à nos sens, bien sûr, nous verrons nos fautes, nous verrons nos chutes, nous verrons encore notre état charnel. Nous irons même jusqu'à douter de notre salut. Nous verrons la défaite spirituelle. Mais si nous faisons confiance en Christ, si nous exerçons notre foi au-delà du combat que nous menons, bien sûr, nous verrons la victoire. Derrière la montagne, nous verrons la plaine. Si nous comptons sur les mérites de Christ sur la croix, oui, nous pouvons nous regarder comme morts au péché. La victoire est acquise. Et là, ce n'est pas la défaite, c'est l'assurance du salut. Nous marchons par la foi et non pas par la vue, dit 2 Corinthiens. Alors oui, la sanctification devient une victoire merveilleuse dans la vie du chrétien. Il y a un troisième domaine de victoire par la sanctification. Le monde n'est pas seulement autour de nous, il n'est pas seulement en nous, il est sous nos pieds et en dessous de nous. Il y a là tout un monde sur lequel nous marchons. Il m'est arrivé une fois de me promener en imaginant qu'en marchant, c'est moi qui faisais tourner la terre. Il faut être orgueilleux quand même. C'est terrible. Mais il y a tout un monde en dessous de nous. Et Romains 16 nous dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc il y a un monde satanique sous nos pieds. Il est sous nos pieds, mais pas encore écrasé totalement. Mais il est déjà sous nos pieds. Et il sera bientôt écrasé. Il sera lié pour 1000 ans. Relâché et jugé pour l'éternité, nous dit Apocalypse 20. Et ici aussi, la Bible attribue la victoire au mérite de Christ. Sa force, la force de Dieu, de Christ, de l'Esprit en nous, sera notre victoire. Jésus avait déjà dit aux 70 disciples qu'il avait envoyés évangéliser, Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Vous connaissez ce passage dans Jacques 4, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. » Remarquez toute une hiérarchie magnifique dans ce passage, dans la mesure où Dieu est au-dessus de nous et que nous sommes en dessous de lui, c'est-à-dire soumis à lui. Satan est en dessous de nous et on pourra lui résister, même le faire fuir. Alors il est bénéfique de se rappeler des victoires qui sont les nôtres grâce au mérite de Christ. La Bible affirme beaucoup de passages à ce sujet. Dans Apocalypse 12, on parle des chrétiens, les frères qui ont vaincu l'accusateur, ça veut dire Satan, à cause de leurs bonnes œuvres. Non, à cause du sang de l'agneau. C'est Christ qui a vaincu, et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Colossiens nous dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a déjà transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Christ a dépouillé les dénominations et les autorités, les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles, à la croix. Colossiens 2, 15. Nous connaissons tous le dernier chapitre de l'apôtre Jean, qui sont magnifiques. Et à partir du chapitre 12, Jésus annonce clairement son sacrifice. Il rentre à Jérusalem, les gens l'ont acclamé avec des branches de palmier et des cris « Hosanna ». Il l'acclame comme le futur roi d'Israël. Et alors, une voix se fait entendre comme une voix du tonnerre. De toute évidence, c'était la voix de Dieu qui a parlé à ce moment-là et qui a dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Et Jésus va donner une explication sur ce phénomène qui est arrivé là. Et il dira « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et l'apôtre Jean ajoute cette phrase de lui-même. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, le jugement de Satan est inclus dans le sacrifice de Christ. Et il y a beaucoup d'autres textes qui le disent. Hébreux, par la mort, Christ rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut donc secourir ceux qui sont tentés. Il y a donc victoire sur les tentations en Christ. Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3. Et ce texte de Philippiens qui est magnifique au chapitre 2, existant en forme de Dieu, Jésus-Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il existait en forme de Dieu. Ici aussi, le grec est magnifique. C'est morphé qui a donné morphologie. Existant en morphologie de Dieu. C'est étonnant, hein? La parole de Dieu est étonnante. Jésus-Christ n'a pas regardé cette égalité avec Dieu. Et il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. La forme morphée, la morphologie de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix, qui n'est pas une mort ordinaire. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Magnifique, hein? L'œuvre complète de Christ. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc voilà, notre part dans la victoire sur Satan consiste à reconnaître la puissance de Christ dans l'efficacité de son sacrifice. Si nous luttons, que nous résistons à la tentation, si nous intercédons, si nous prions, si nous allons même jusqu'à jeûner comme Jésus l'a lui-même recommandé, ce sera toujours en son nom que la victoire nous sera donnée. Et là aussi, la parole peut nous aider. Présente Satan comme étant un lion rugissant qui rôde autour de nous et qui cherche à dévorer les chrétiens. Et Pierre dira, mais résistez-lui avec une foi ferme. Le chrétien né de nouveau a donc le pouvoir de chasser les démons. Et c'est la recommandation que Jésus avait donnée tout à la fin de l'évangile de Marc, quand il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et c'est étonnant de voir dans les Actes des Apôtres comme cette parole s'est accomplie. Il y a dans les Actes des Apôtres 4 exemples où des gens tourmentés par des esprits impurs étaient guéris par le Seigneur. Acte 8, quand Philippe est descendu en Samarie, il y prêcha le Christ, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Acte 16, à Philippe, il y avait une servante avec un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Et Paul lui dira, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Acte 19, les esprits malins sortaient. Les Actes des Apôtres, c'est quand même la nouvelle dispensation, la dispensation de l'Église dans laquelle nous sommes encore toujours aujourd'hui. Le récit d'Acte 19 continue avec la mésaventure des exorcistes. Il y avait des exorcistes ambulants, juifs. Ils étaient sept fils de Sceva. Sceva qui était un des principaux sacrificateurs. Ils ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus-Christ en plus. Et ils n'ont pas réussi. Parce que être fils de sacrificateur ne fait pas de nous encore un être sanctifié, n'est-ce pas? Dieu a des fils, pas des petits-fils, comme dirait David Duplessis. Alors voilà, je termine. Il y a un quatrième monde dont on n'a pas parlé. Et ce quatrième monde nous est favorable. Pas comme les trois autres. Il nous est favorable. Il y a un monde, le monde d'en haut, et qui nous est accessible. Pourquoi j'avais mis sur les dias des colombes? Parce que le monde d'en haut nous est ouvert. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non point à celles de la terre, car vous êtes mort, et votre vie est cachée, mise à part, avec Christ en Dieu. La vie de l'Esprit est accessible. Remarquez cette opposition entre les choses d'en haut et les choses de la terre. Et Paul va développer dans Colossiens les choses de la terre et il dira « Faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, la passion, les mauvais désirs, la cupidité, renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie. » Et puis il va développer les choses d'en haut, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Revêtez-vous des choses d'en haut, les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et vous allez encore là me dire, je n'y arriverai jamais. Je suis comme je suis. On va me prendre comme je suis. On ne va jamais rien changer à cela. Et c'est vrai que par vos efforts, vous n'y arriverez pas. Mais seulement en comptant sur les mérites de Christ. Comme le dit clairement le verset 3. Vous êtes mort et votre vie est cachée. Vous êtes mis à part pour Christ en Dieu. Caché, vous êtes réservé. La mort et la résurrection de Christ, oui, ça nous ouvre le ciel, ça rend le ciel accessible. déjà ici-bas sur terre. Comme dit Éphésiens 1, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est le ciel qui s'ouvre pour nous. Comme lors du martyre d'Étienne, en pleine souffrance, dans Actes 7, il s'est écrié, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Nous appartenons déjà au ciel, les choses de la terre pâlissent, notre attachement, notre ambition, nos aspirations vont déjà vers les choses d'en haut. Et au fur et à mesure que la sanctification nous détache de tout ce qui est terrestre, de ce qui est autour de nous, de ce qui est en nous, de ce qui est sous nous, sous nos pieds, eh bien, nous voyons le ciel déjà. Et même dans les moments les plus difficiles, le ciel nous est réservé et accessible. Alors voilà, je termine. Pour conclure, notre sainteté est acquise à la croix. Elle englobe quatre aspects. Premièrement, le monde qui nous entoure, il ne nous concerne plus. Le monde qui est en nous, il est cloué, soumis à notre nouvelle nature qui est plus forte en nous. Le monde qui est sous nos pieds, déjà vaincu. Le monde qui est au-dessus de nous, oui, il est ouvert, accessible. Il nous appartient déjà. Prions. Ô Seigneur, nous réalisons ce matin l'étendue de ton sacrifice. Nous réalisons l'efficacité de tes mérites sur la croix. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas évoquer nos mérites à nous, nous voulons évoquer tes mérites à toi. Parce que ton sacrifice a été suffisant. Il a été efficace pour nous ouvrir le ciel. Tes mérites, Seigneur, nous donnent le pardon, la victoire sur ce monde, la victoire sur nous-mêmes, la victoire sur Satan. Ô Seigneur, merci pour la vie de l'Esprit qui est réelle et qui nous est donnée, qui nous est accordée. Avec les dons, avec le fruit de l'Esprit, avec ses caractéristiques. Oui, Seigneur, je sais, je crois, je vois que je suis une nouvelle créature, que je suis un enfant de Dieu, que je suis mis à part pour toi. Merci, Seigneur. Je réalise, oui, le ciel est déjà ouvert. J'accepte et réalise ces choses dans ma vie par la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi la gloire. Amen.